Chapitre 14. Au dernier verset du chapitre précédent, le Seigneur parle ouvertement de son rejet et en prédit les résultats quant à Jérusalem. Cependant, il ne cesse pas ses activités en grâce, ni son enseignement de la grâce, comme le montre le début de ce chapitre-ci. Les pharisiens désiraient employer leur loi du sabbat pour en faire une cordelette avec laquelle ils lieraient les mains pleines de miséricorde du Seigneur et en restreindraient l'action. Il rompt leur corde et montre qu'il aurait au moins autant de miséricorde envers l'homme affligé qu'eux-mêmes en avaient habituellement vers leurs animaux domestiques. Sa grâce abonde et se met au-dessus de tous leurs préjugés légaux. À partir du verset 7, Luc reprend l'exposé des enseignements du Seigneur, et nous ne trouvons pas d'autres récits de ses œuvres avant d'arriver au verset 11 du chapitre 17. En premier lieu, le Seigneur met l'accent sur la conduite qui devrait caractériser les bénéficiaires de la grâce. La nature humaine se met en avant et se montre arrogante, mais la grâce ne peut être reçue que si l'humilité se manifeste. L'invité convié à des noces participe au festin en vertu de la générosité de celui qui l'invite, non pas parce qu'il a le droit ou le mérite, et il doit se conduire en conséquence. On peut remarquer que dans la société mondaine aujourd'hui, se montrer effrontément arrogant ne serait pas considéré comme de bon ton. Nous reconnaissons cela, et c'est un témoignage à la manière dont les idéaux chrétiens prédominent encore. Dans les milieux païens, on applaudirait à une telle impudence, et nous verrons qu'elle se manifestera de plus en plus au fur et à mesure que prédominent les idéaux païens. On voit quelquefois dans cette vie l'abaissement de celui qui s'élève et l'élévation de celui qui s'abaisse, mais cela se verra dans une pleine mesure lorsque celui qui s'est abaissé lui-même au suprême degré, jusque même à la mort de la croix, sera haut élevé aux yeux de tous et que tout genou se ploiera devant lui. Au verset 11, nous pouvons discerner les deux Adam. Le premier chercha à s'élever et tomba. Le dernier Adam s'abaissa lui-même et est maintenant assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts. Dans les trois versets suivants, nous trouvons le Seigneur qui instruit non pas l'invité, mais le maître de maison. Lui aussi doit agir dans un esprit qui convient à la grâce. La nature humaine est égoïste, même dans les bienfaits qu'elle prodigue, et elle fera des invitations avec espoir d'en tirer des avantages dans l'avenir. Si, sous l'influence de la grâce, nous pensons à ceux qui n'ont rien à nous offrir, nous ne cherchons pas une récompense pour ici-bas. Il y a pourtant récompense, même pour les actions dictées par la grâce, mais cela aura lieu dans le monde de la résurrection que nous connaîtrons plus tard. Des enseignements tels que ceux-ci incitèrent quelqu'un à s'écrier « Bienheureux celui qui mangera du pain dans le royaume de Dieu !» Cela a été dit très probablement sous l'impression que l'entrée dans le royaume était une chose très difficile et que celui qui mangera du pain doit être particulièrement favorisé. Cette remarque conduit le Seigneur à donner la parabole du grand souper, dans laquelle il montre que la porte pour entrer dans le royaume est ouverte à chacun, et que si quelqu'un n'y entre pas, c'est par sa propre faute. Dans cette parabole, il y a un élément prophétique. Le Seigneur anticipe et parle de choses qui trouvent leur accomplissement dans la période où nous sommes. C'est avant tout la parabole de l'Évangile. Un homme fit un grand souper et y convia beaucoup de gens. Pour lui, les frais et la peine, mais nombreux en allaient être les bénéficiaires. Les premiers invités étaient des gens qui possédaient déjà quelques biens, un champ, des bœufs, une femme. Ceux-ci représentent les Juifs et leurs chefs religieux dans le pays, qui ont été les premiers à entendre le message. Pris dans leur ensemble, ils refusent l'invitation, et ce sont les privilèges religieux qu'ils possédaient déjà qui les aveuglent sur la valeur du don de l'Évangile qui leur est offert. Lorsque le serviteur rapporta à son maître que les invités refusaient de venir, celui-ci, nous est-il dit, fut en colère. En Hébreux 10, versets 28 et 29, il est dit que celui qui a outragé l'esprit de grâce est jugé digne d'une punition combien plus sévère que quelqu'un qui a méprisé la loi de Moïse. Ce que nous avons dans notre chapitre est en rapport avec ce qui est dit en Hébreux 10. La colère du maître a vraiment pour résultat qu'aucun de ceux qui ont méprisé ainsi son invitation ne goûtera de son souper, comme il est indiqué au verset 24. Cependant, cela ne ferme pas ses entrailles de miséricorde. Au contraire, le serviteur reçoit l'ordre de s'en aller promptement et d'amener les pauvres et les nécessiteux, ceux qui, à vue humaine, étaient les moins préparés pour venir. Mais ceux-ci devaient être rassemblés depuis les rues et les ruelles de la ville. Aussi, ils représentent, pensons-nous, les pauvres, les affligés, les personnes indignes d'Israël, les publicains et les pécheurs en opposition aux scribes et aux pharisiens. Le Seigneur lui-même se tournait maintenant vers eux, et c'est parmi ces gens que l'œuvre allait continuer jusqu'au jour dont nous parlent les premiers chapitres des Actes des Apôtres. Puis le moment arrive où l'invitation a été pleinement transmise parmi tous ces malheureux, et quoique beaucoup aient accepté, l'heureuse annonce « il y a encore de la place » est faite par le serviteur. Cela conduit à une extension de cette généreuse invitation. Le maître dit encore « va ». Et maintenant, les pauvres épaves humaines des chemins et des haies en dehors des limites de la ville doivent être amenées pour remplir la maison. Cela représente l'annonce de l'Évangile aux nations, et nous pensons ainsi à la fin des Actes où l'apôtre Paul dit « Ce salut de Dieu a été envoyé aux nations, et eux l'écouteront. » Acte 28, verset 28. Cette parabole expose d'une façon explicite la question vue du côté de Dieu plutôt que du côté de l'homme. Dieu prépare le souper, il envoie le serviteur, il agit suivant son propre dessein et remplit sa maison en dépit de la perversité de l'homme. Le serviteur qu'il envoie est le Saint-Esprit, car nul que lui n'est assez puissant pour exercer un pouvoir absolument contraignant. Les serviteurs sous ses ordres, même quelqu'un d'aussi remarquable que l'apôtre Paul, ne peuvent faire plus que de persuader les hommes, voir 2 Corinthiens 5, verset 11. Seul l'Esprit du Dieu vivant peut agir dans leur cœur assez efficacement pour qu'ils soient contraints d'entrer. Mais, béni soit Dieu, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. À l'ouïe de telles choses, de grandes foules allaient avec lui. Nombreux sont ceux qui aiment entendre parler de quelque chose que l'on peut avoir pour rien. Le Seigneur se tourne et place devant elle les conditions pour être disciple. La grâce de Dieu n'impose pas de conditions, mais l'Évangile qui annonce cette grâce ne manque pas de conduire nos pas dans le sentier qui caractérise un disciple du Maître. Nous ne pouvons y marcher en toute droiture que si nous nous soumettons à des conditions très rigoureuses. Quatre sont mentionnées ici. Premièrement, le maître doit être l'objet suprême des affections du disciple, à tel point que tout autre amour doit être comme de la haine en comparaison avec l'amour pour le maître. Deuxièmement, il nous faut porter la croix en le suivant, c'est-à-dire il faut être prêt à accepter une sentence de mort de la part du monde. Troisièmement, il nous faut calculer la dépense en ce qui concerne nos ressources, évaluer correctement tout ce qui nous appartient dans le Christ que nous suivons. Quatrièmement, il faut également évaluer correctement les puissances déployées contre nous. Si nos calculs sont faux, à l'égard de l'une ou l'autre de ces évaluations, il s'ensuivra ou bien que nous dépasserons probablement notre mesure, ou bien que nous serons remplis de crainte et transigerons avec l'ennemi. Si, comme le dit le verset 33, nous abandonnons vraiment tout ce que nous possédons, nous serons rejetés totalement sur les ressources du Maître suprême que nous suivons, alors le chemin s'ouvrira devant nous d'une manière merveilleuse. Nous serons des disciples. Or, le vrai disciple est le sel, et le sel est bon. En Matthieu 5, nous voyons Jésus qui dit « Vous êtes le sel de la terre », verset 13. Mais il dit cela aux disciples, verset 1. Si le disciple transige, il devient comme le sel qui a perdu sa saveur, et il n'est plus bon à rien. Quelle parole pour nous! La grâce nous a appelés et a ouvert devant nous un chemin où nous avons à marcher comme disciples. En respectons-nous les conditions solennelles, de telle sorte que nous devenions vraiment des disciples? Puissions-nous vraiment avoir des oreilles pour entendre ?